Égalité et diversité, paroles libérées, regards transformés. Un podcast de l'instance égalité de la HEPVO.
Voilà, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Cet épisode est consacré à des projets développés dans le cadre d'un module de formation de futures enseignantes et enseignants. Un module qui s'inscrit dans le programme de mobilité estudiantine de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Martina Zimmermann, vous en êtes la formatrice responsable. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les objectifs de ce module, ses particularités ?
Voilà, volontiers. En fait, le titre de ce module est en anglais parce qu'on a fait ce module tout en anglais. Et le titre est « Investigating Classroom Practices and Language Textbooks in Different Educational Contexts ». Et du coup, ce projet, en fait, parle du genre. Et puis, on a mené ce projet avec 5 futurs professeurs d'anglais du primaire, du secondaire 1 et du secondaire 2 au cours de ces derniers mois. Et au départ, c'était un peu l'idée que bon, le genre est reflété par la langue et que la langue façonne le genre. Et nous nous sommes demandé dans quelle mesure l'enseignement des langues et cultures étrangères remettait en question les représentations du genre qui correspondent aux visions du monde un peu dominantes. Voilà, c'est un peu the background of this project.
Merci, je trouve intéressante l'idée de réunir des étudiantes de différentes filières de formation. Je voulais savoir un petit peu en quoi cette configuration vous semble pertinente.
Alors, si on parle du genre, je pense que c'est une thématique qui est vraiment là pour toute la vie. Et puis, on est socialisé dans un monde qui est très genré. Et du coup, ça concerne tout le monde. Si on parle du système d'éducation, on ne peut pas seulement parler du genre à l'école enfantine, mais il faut aussi parler du genre dans les gymnases. Et puis, en fait, je pense que c'était vraiment un avantage de ce projet d'avoir des étudiantes de toutes ces filières qui se parlaient, qui échangeaient des idées et qui ont compris en quoi le genre était une thématique qui était importante, mais de manière très différente dans les filières ou dans les différentes filières, mais aussi qu'il y avait des similitudes à travers ces différents degrés. Et puis, si on parle de la socialisation, on pourrait peut-être dire qu'au début de ce projet, les participantes avaient la tâche d'examiner de manière critique leur propre parcours scolaire, se basant sur les manuels d'anglais. Et ils ont dû produire une petite vidéo en analysant de manière critique un peu leur propre manuel qu'ils ont utilisé. Et puis c'était intéressant de voir ce qu'elles disaient par rapport à leur propre scolarité, aussi de voir à quel point elles étaient un peu choquées parce qu'elles trouvaient dans ces manuels aussi à cause de ces visualisations qui étaient parfois vraiment très 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 stéréotypées. Voilà.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Je vous propose maintenant de passer la parole à des étudiantes, à Camille Chauffa et Pauline Sommer. Je vous invite d'abord à vous présenter brièvement et puis ensuite peut-être à nous expliquer qu'est-ce qui a motivé votre participation à ce module, puisqu'il s'agit en fait d'un module à choix.
Alors moi c'est Pauline, j'ai reçu un mail l'été passé pour présenter le PIRS et j'ai vu que c'était en anglais et sur le thème genre et langage, je me suis dit... ça m'intéresse et les dates ça fonctionnait donc je me suis inscrite et ça m'a motivée d'y participer parce que c'est très actuel et en tant que future enseignante au primaire donc avec des enfants jeunes j'ai eu envie de participer à la réflexion. Finalement au lieu d'avoir des réponses j'ai plus de questions qu'avant mais c'est aussi ça qui stimule et qui fait avancer.
Moi, je m'appelle Camille Chauffa. Je suis à la HEP en bachelor primaire dans le cycle 2, donc pour des 5-8. J'ai un peu la même réflexion de départ dans le sens où j'ai toujours beaucoup aimé les langues et puis de me questionner sur l'impact du genre dans différentes langues. On sait comment ça se passe en français. On a du masculin, du féminin, des noms, par exemple, des adjectifs, etc. Ce n'est pas le cas en anglais. Et du coup, j'ai trouvé intéressant de partir de là pour se demander s'ils avaient peut-être les mêmes stéréotypes que chez nous ou s'ils en avaient peut-être d'autres. Et du coup, voilà un peu ce qui m'a motivée au départ à me lancer là-dedans. Mmh.
Bien. Alors après, une première activité que vous avez menée autour des manuels scolaires que vous avez utilisés comme élève, vous aviez à choisir une thématique que vous allez ensuite développer. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le projet que vous avez retenu et puis où vous en êtes de vos réflexions?
Alors on est parti de la base en se faisant la remarque qu'au primaire, c'était des fois très très compliqué de pouvoir aborder les thématiques du genre, de l'identité sexuelle, de différentes choses comme ça, avec des élèves. Pas que pour les élèves, mais aussi pour le contexte familial. Il y a certains parents qui ne veulent pas en entendre parler, par exemple. Et donc, on a décidé de mettre en place deux planifications utopiques de comment est-ce qu'on aimerait aborder ces sujets dans une classe avec des enfants en primaire, mais en mettant de côté tous les problèmes qui pourraient y avoir liés à ça et qui pourraient nous empêcher de les faire comme ça.
Oui, j'ajouterais qu'à la base, ce qui m'a donné envie de partir dans ce sujet précis, c'est de me rendre compte de l'influence que l'enseignante peut avoir via son langage dans la confirmation ou la déconstruction des stéréotypes de genre. Donc j'ai eu envie de travailler sur quelque chose, sur un projet concret. Je peux, moi, dans ma pratique enseignante, faire une influence dans un sens choisi.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, par exemple, quel est le sujet que vous allez aborder concrètement avec les élèves pour vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, justement, du point de vue de la langue?
Oui, alors nous avons prévu deux leçons sur deux thèmes différents, à savoir qu'on les a pensés de manière utopique, mais que ce caractère-là dépend du contexte dans lequel on met en œuvre. Mais pour être plus précisément dans votre question, la première planification, on l'a choisie au sujet de l'identité de genre et l'identité sexuelle, avec l'entrée en matière par un livre. Donc on a choisi un livre pour enfants qui s'adresse aux 3 à 7 ans, mais comme on le fait dans une classe d'anglais, nous, on l'adresserait à des élèves plutôt de 7-8P, sachant que le thème reste tout à fait pertinent pour des élèves plus âgés que l'âge auquel le livre est lui-même adressé. Mais il y a aussi l'avantage que le niveau de langage est adapté, puisqu'on fait ça dans une classe de langue seconde. Donc simplement lire l'histoire et puis faire émerger ce que les élèves en pensent et qu'est-ce que ça leur fait ressentir. Et le but, c'est que l'enseignant soit plus en retrait en termes de prise de position ou de commentaires, mais d'accompagner les élèves dans une réflexion. Est-ce que tu ajouterais quelque chose, Camille ?
Juste pour vous recontextualiser, le livre parle d'une phénix, ça s'appelle. Ça parle d'un petit garçon qui explique petit à petit à ses parents qu'il aimerait devenir une fille et qu'il se sent fille. Et donc, c'est un peu ça le synopsis de l'histoire. Et donc, voilà. Ouais. On a décidé de se baser beaucoup sur du vocabulaire, par exemple, pour l'identité de genre et l'identité sexuelle, de leur amener des notions de, par exemple, ce qu'était la transsexualité, ce qu'était l'hétérosexualité, l'homosexualité, etc. Donc, on est parti sur du vocabulaire assez précis pour pouvoir garder des faits et pas partir sur ce que nous en pensons, pour pouvoir un peu se détacher et puis vraiment rester dans les faits et dans un peu des choses plus précises.
Donc partir d'abord des ressentis des élèves suite à la lecture de l'histoire et puis ensuite mettre des mots, les mots qui sont présents comme un lexique, on va dire, leur permettre d'avoir les mots justes pour ensuite exprimer peut-être mieux leur ressenti.
Exactement.
C'est cela, d'accord. Ouais. Et puis, je crois que vous avez mentionné une deuxième activité. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire deux mots? Là, vous avez parlé de celle qui fait le lien entre identité au pluriel, sexuée et sexuelle. Mais là, vous avez évoqué aussi une autre activité. Est-ce que vous pouvez nous la décrire?
La deuxième planification, elle se base plutôt sur les métiers, sur les genres dans les métiers, du moins les stéréotypes qu'on pourrait avoir de tout ça. On part d'abord d'une activité où on leur a donné des étiquettes de noms de métiers en français. On a décidé de le faire en se disant que c'était peut-être potentiellement plus compliqué en anglais dès le départ. Donc, on a décidé de le faire un peu en bilingue. Nos leçons, elles sont assez moitié français, moitié anglais, en fait. Et donc, on a des étiquettes qu'on aimerait qu'ils classent dans les métiers selon, par exemple, si je prends l'étiquette maçon-maçonne, il y a 3 colonnes, il y a femme, homme et mixte. Et on aimerait que selon les connaissances qu'ils ont, par exemple, si je connais un homme maçon, Pauline connaît aussi un homme maçon, alors on va mettre maçon dans homme. Si moi je connais une femme maçonne, elle connaît un homme maçon, on mettra dans mixte. Et si toutes deux, on connaît que des femmes maçonnes, alors on mettra dans femme. Et le but, c'est un peu de refléter la réalité, certainement, par ça, et de voir que, a priori, maçon sera certainement dans la colonne homme pour la plupart des groupes. Ils seront par 3 pour faire ça. Et du coup, le but, c'est de voir un peu pourquoi est-ce qu'on ne connaît que des hommes maçons, on ne connaît que des femmes, voilà, un peu les stéréotypes qui en ressortent. Et puis ensuite, depuis là, on voulait lire une histoire de nouveau. Une histoire qui s'appelle...
A Computer Called Catherine.
Merci. Et qui parle de... d'une femme qui aimerait devenir astronaute et pour qui c'est plus compliqué que pour d'autres, que pour notamment d'autres hommes. Et donc, on aimerait partir de ça de nouveau pour leur poser un peu des questions sur ce qu'ils ont pensé de cette histoire, ce que ça développe comme eux, comme chez eux comme sentiment, ce qu'ils en pensent. Enfin, voilà.
Merci. Vous avez eu l'occasion de dispenser cette leçon ou ces leçons ou pas encore?
Non, pas encore.
D'accord.
J'attends des conditions favorables.
Oui, je pense que ce sera plus simple le jour où on a notre classe que là en stage, dans le sens où on aura peut-être un rapport avec les parents et puis ça nous permettra peut-être de pouvoir un peu tâter le terrain. Alors que là, comme c'est pas dans notre classe, c'est des fois plus compliqué à sentir vraiment le contexte et à savoir si c'est quelque chose qui pourrait être envisageable ou pas.
Je vous remercie donc pour avoir explicité vos projets. On a la chance d'être accompagnée aujourd'hui par Monique Anchaud dans le studio et donc je vais lui passer la parole. Elle aura sans doute une question à poser.
Merci Muriel. Je collabore avec Muriel Guyard à l'instance pour la promotion de l'égalité ici à la HEP. Et puis c'est vrai qu'en vous écoutant attentivement ce matin, je vous remercie d'ailleurs de la qualité de vos interventions, de vos réflexions. Me vient une question que j'adresserai d'abord à votre professeur. Et ensuite, ça m'intéresserait également de vous entendre. Donc, j'ai bien compris, hein, genre et langue, quelle représentation. Enfin, très bien, c'est une réflexion qui me semble vaste, mais beau projet. Une question qui me vient, puisque vous avez parlé des métiers, quelles hypothèses formulez-vous, Madame Timmerman, quant à la surreprésentation, ce que moi je qualifie comme une surreprésentation, des femmes dans l'enseignement des langues?
Merci de cette question. Oui, évidemment, le sujet est assez vaste, mais cette question par rapport au métier m'intéresse depuis longtemps, parce qu'en il y a quand même eu des recherches qui montrent très bien que la socialisation genrée par rapport au choix des métiers, elle montre toujours un peu la même chose, que en fait, tout au début de notre carrière, tout est plus ou moins envisageable, puis après ça change. Puis bien sûr, on pourrait se questionner pourquoi ça change, pourquoi est-ce qu'une fille pourrait pas s'imaginer de devenir maçonne, par exemple. Et puis, il y a quand même eu des projets, par exemple en Angleterre, qui ont pu montrer qu'avec des projets un peu action research, il y a eu un changement drastique ou dramatique dans le sens positif, que tout d'un coup, les élèves qui pouvaient seulement s'imaginer de devenir, les élèves filles pourraient seulement s'imaginer de devenir infirmières, par exemple, pourraient tout à coup, tout à fait s'imaginer de continuer une carrière qui était pas tellement prévu pour une fille. Voilà. Et du coup, ouais, c'est une question qui est vraiment là, sur la table. Et donné qu'on est dans le contexte de l'enseignement des langues et cultures étrangères, on a affaire avec la langue, mais on a aussi toujours affaire avec un contenu, parce que la langue n'existe pas sans contenu. Alors du coup, quand on regarde les manuels, il y a toujours un contenu, et puis c'est moi, je trouve qu'on ne peut pas dire que c'est un prétexte pour apprendre la langue, mais on a toujours affaire avec quelque chose qu'on transmet aussi, un contenu, des visualisations qui disent quelque chose, comment on pourrait s'imaginer le monde ou pas. Et puis le métier, il est toujours là aussi dans le contexte de l'enseignement, dans le contexte de l'enseignement des langues et cultures étrangères. Et puis peut-être par rapport à nous, nous sommes actuellement que des femmes impliquées dans ce projet. Alors du coup, on pourrait déjà se poser la question par rapport à ça, mais on pourrait évidemment prendre votre question et s'imaginer aussi comment ça se fait qu'il y a beaucoup de femmes qui font des études en lettres, qui choisissent les langues, etc. Mais évidemment, il y a aussi cette question qui va au-delà par rapport à pourquoi dans la filière primaire, il y a quand même toujours une majorité des femmes qui s'inscrivent pour ce métier. Après, ces questions-là, évidemment, nous forcent de poser d'autres questions. Vous voyez que je ne vous donne pas du tout des réponses, mais plutôt des questions. Par exemple, il faudrait peut-être parler du salaire, des conditions de travail, du statut qui est attribué à ce métier, qui attire plus de femmes que des hommes. Et puis, ouais, je ne sais pas si c'est une réponse.
Oui, absolument. Absolument, je vous remercie. C'est vrai que c'est une vaste question. Alors, effectivement, on pourrait revenir sur la question des manuels scolaires, mais ce n'est pas le propos ce matin. Vous avez d'ailleurs soulevé un point extrêmement intéressant. Vous vous êtes saisi d'ouvrages en littérature, d'albums littérature jeunesse en anglais pour justement proposer, alors pour l'instant vous êtes dans l'utopie, hein, je trouve que c'était intéressant, la planification utopique, mais c'est vrai que vous avez fait un pas de côté, pris d'autres outils qui sont à votre disposition pour construire votre geste pédagogique. Alors là, c'est intéressant. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question surreprésentation, cette surreprésentation genrée dans l'enseignement des langues, pour rester...
J'ai l'impression que déjà, la plupart, qu'il y a de plus en plus d'hommes quand même à la HEP ces derniers temps. Et par contre... Dans mon ressenti, je m'étais déjà fait cette remarque. Beaucoup se dirigent vers les extrémités, en primaire en tout cas. Donc, sont soit intéressés par les 1-2, donc les plus petits, soit par les 7-8, donc les plus grands. Il y a peu d'entre deux. Et en 7-8, peu se dirigent vers l'enseignement des langues, effectivement. Plus se verraient enseigner des maths, la science, voilà. Alors qu'en 7-8, officiellement, on pourrait être généraliste, donc encore tout être capable d'enseigner. Et j'ai l'impression quand même que c'est peu le cas. Mais après, les raisons, on en revient toujours à la même chose et au fait d'en parler chez les plus jeunes et d'ouvrir ça à tout le monde. Mais...
Des enjeux de socialisation.
C'est ça.
Et puis c'est vrai qu'il y a comme ça une espèce de distribution qu'on pourrait dire un peu magique. Comme si ça allait de soi. En tant que fille, ce sont les langues. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Pauline ?
Oui, j'aurais dit que je pense que les constructions sociales prennent du temps à se déconstruire et à bouger.
Mmh. Très bien.
En tout cas, on vous remercie parce que c'est sans doute au travers de projets que vous allez pouvoir mener que vous contribuerez à votre échelle à faire évoluer les mentalités.
On l'espère en tout cas.
Égalité et diversité, paroles libérées, regards transformés. Un podcast de l'instance égalité de la HEP Vaud.